Donc, en abordant le problème de la liberté, il va s'agir de déterminer qu'est-ce qu'on entend par liberté, et aussi, je pense, de se rendre compte que la notion de liberté, elle va nécessairement impliquer ou s'appuyer sur une certaine vision du monde. Certaines visions du monde pourraient être telles que la liberté n'a aucun sens. Et si on veut que la liberté ait un sens, alors ceci nécessitera une vision du monde particulière. Donc on ne pourra pas aborder la liberté sans se questionner sur la nature du monde dans lequel nous vivons, évidemment la nature aussi de nous-mêmes, pour essayer de voir si le monde dans lequel nous vivons et ce que nous sommes est tel que ceci permet une certaine liberté ou pas, ou de quel type de liberté ce que nous sommes et le monde dans lequel nous vivons peut permettre. Donc j'aimerais tout d'abord parler un petit peu dans un contexte un petit peu plus général, voir cette notion de liberté, comment elle s'est un peu développée, évoquer quelques réflexions sur la notion de liberté en Occident. Non pas que je connaisse bien la philosophie, j'ai juste pris le texte d'Hannah Arendt sur la crise dans la culture. Il y a un chapitre sur qu'est-ce que la liberté et qui me semblait extrêmement, extrêmement intéressant pour évoquer un de ces aspects-là. Donc tout d'abord, il semble que dans la pensée occidentale, dans la pensée antique, la notion de liberté n'ait été comprise uniquement que comme au sens politique, que la liberté était la liberté du citoyen ou l'absence de liberté du citoyen, et que tous les grands penseurs de l'Antiquité, donc dans la tradition grecque et même romaine, n'aient pas abordé le problème de la liberté comme quelque chose qui serait de l'ordre d'une liberté intérieure. Donc on peut imaginer quand même que toute cette pensée philosophique extrêmement élaborée n'a pas abordé ce problème-là, ce qui est quand même assez, assez intéressant. Et quand le problème de la liberté surgit comme notion qui est peut-être celle qu'on a à l'heure actuelle, de quelque chose de plus intérieur, de plus personnel, ceci surgit avec les grands penseurs chrétiens, Saint Paul et Saint Augustin. Pour une raison assez, peut-être assez simple d'ailleurs, c'est que dans l'Antiquité, le problème se posait de la place dans la société, donc du citoyen dans la société, avec un cosmos organisé, et que il s'agissait pour toute personne de trouver sa place juste dans la société, selon sa nature, etc. Donc une réflexion plus sociale, politique. Et sans qu'il y ait de questionnement quant à sortir de cet ordre-là. Alors que, évidemment, pour des gens comme Saint Paul ou Saint Augustin, je ne suis pas des grands connaisseurs de ces penseurs, mais puisque ce sont des personnes qui se sont converties au christianisme, on a justement quelque chose d'autre qui surgit, qui est où était la liberté pour eux de sortir d'une tradition à laquelle ils appartenaient, plus ou moins, pour tout d'un coup choisir autre chose. Donc ici, on a affaire à un sens de la liberté qui est la liberté intérieure et non plus la liberté politique. Il semble que pour que ces notions de liberté puissent surgir, il est nécessaire que des personnes ou des penseurs puissent se marginaliser par rapport à une société, pour que ça devienne un problème personnel de qu'est-ce que veut dire dans le fond la liberté et liberté intérieure. Sans cette distance par rapport à la société dans laquelle les penseurs se trouvent, à ce moment-là, il y a moins la tendance, la possibilité pour que ce problème de liberté surgisse. On peut imaginer, sans évidemment nécessairement connaître Saint Paul et Saint Augustin, mais donc si vous les connaissez, tant mieux, si vous les connaissez bien, mais de s'imaginer cette question de liberté qui a pu surgir, puisqu'il a fallu pour eux, évidemment, faire un choix, et qu'est-ce qui leur permettait de faire ce choix pour s'engager dans quelque chose qui évidemment, est extrêmement, extrêmement nouveau et révolutionnaire à l'époque. Donc, cette notion de liberté surgit dans ce contexte-là. Et on verra que dans l'Inde on a peut-être quelques éléments similaires qui font que ces notions de liberté vont aussi pouvoir se poser en termes personnels plus qu'en termes sociaux. Donc j'ai parlé de la vision du monde que la liberté implique, c'est-à-dire est-ce que on voit un monde dans lequel la liberté est possible ou un monde dans lequel la liberté n'est pas possible. Et alors si on revient là sur ces... sur la pensée en Occident, c'est intéressant parce que justement, Saint-Augustin amène une pensée qui permet de rendre compte de cette liberté. Et si on est dans un monde où tout est déterminé par des lois naturelles, voilà, comme les lois, je ne sais pas, des saisons ou des marées qui dépendent de la lune, etc., de la rotation de la Terre, du cycle de la végétation qui dépend des pluies, du soleil, des saisons, etc., où tout semble déterminé. Il n'y a pas un moment donné où un arbre se dit, ouais, ben moi, la saison d'hiver, je la saute celle-ci. Je pars aux Caraïbes parce qu'il y en a. Non, ça ne se fait pas. Enfin, bon, on n'a pas observé tous les arbres, mais enfin, c'est quand même pas ce qui se passe. Donc, on est dans un cycle naturel où, dans le fond, tout suit un ordre causal nécessaire, dans la mesure où on peut l'observer, ou ce qu'on en déduit, dans le fond. Et dans cet ordre-là, dans le fond, il n'y a aucun espace de liberté. La pierre ne peut pas décider de ne pas se briser sous l'effet du gel, etc. Donc, une vision du monde où tout est complètement déterminé, tout est dans un ordre particulier. Et Saint-Augustin a une réflexion qui est très intéressante, enfin une réflexion, il y a beaucoup de réflexions intéressantes, mais une là qui nous intéresse, et on va voir d'ailleurs qu'elle trouve un écho aussi dans la pensée bouddhique, c'est que pour lui, pour Saint-Augustin, quand surgit dans le monde l'être humain, avec lui surgit justement la liberté. C'est au moment où surgit l'être humain que surgit la liberté. Il dit Dieu a mis l'être humain dans la création pour qu'il puisse y avoir un nouveau début. C'est-à-dire que dans cet ordre de nécessité, où une chose amène une autre, etc., eh bien, l'être humain est ce phénomène qui peut ne pas simplement être soumis à un ordre naturel et prendre une autre direction. Il peut suspendre cet enchaînement et se dire non, je ne vais pas dans ce sens-là, je vais dans un autre sens. Donc, cette manière qu'a Saint-Augustin de dire, c'est surgit la liberté, la possibilité de la liberté dans la nature, par le surgissement de l'être humain, dans sa capacité, dans le fond, de commencer quelque chose de neuf. Dans cet enchaînement qu'il y a, causal, tout d'un coup là, il suspend et il commence, on pourrait dire, il commence un nouvel enchaînement. Il n'est pas soumis à l'enchaînement, il n'est pas soumis à ce qui vient avant. Il peut décider de quelque chose de différent. Donc c'est dans cette brèche qu'il y a, dans cet enchaînement de causalité, cette brèche que l'être humain représente, ou cette possibilité que l'être humain apporte, il y a cette possibilité de se libérer de cet enchaînement naturel, de cet enchaînement causal. Donc avec un choix qui est possible, voilà, dans la manière qu'a Saint-Augustin de le poser, on a l'impression que ce choix est total. Puis on verra qu'avec Freud, il vient un petit peu changer la donne en disant que finalement, est-ce qu'on est vraiment maître dans notre demeure? Est-ce qu'on choisit vraiment ou est-ce qu'on n'est pas déterminé par autre chose? Donc on va mettre une sorte de parenthèse dans le développement de la pensée occidentale, mais ça reste quand même cette possibilité. Et même dans la psychologie ou psychanalyse, on ne peut pas imaginer un déterminisme total, ce qui n'aurait pas de sens, ce qui d'ailleurs renverrait tous les psychanalystes à la maison. Donc il doit y avoir quand même un espace de liberté. Donc voilà, ce qui me semblait intéressant, c'est la manière dont Saint-Augustin place cette possibilité de rompre cet enchaînement par la conscience que l'être humain amène. Et un autre penseur aussi que je vais amener ici, qui est Rousseau, qui amène un élément qui me semble intéressant. On verra aussi comme il y a une sorte d'écho dans la tradition bouddhique. dans un texte qui s'appelle Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Donc il se pose la question, dans le fond, qu'est-ce qui différencie l'être humain des animaux? Alors, on avait certainement une connaissance du règne animal un petit peu moins développée qu'on l'a actuelle, mais je pense que dans les grandes lignes, quand même, ça a beaucoup de sens ce que Rousseau amène. Donc on avait des penseurs qui disaient c'est la raison qui différencie l'homme de l'animal, ou bien c'est le rire ou autre chose. Et Rousseau dit c'est la liberté. C'est la liberté qui différencie l'animal de l'être humain. Il dit parce que, dans le fond, ce qui va gouverner le règne animal, c'est le règne de l'instinct, c'est-à-dire que l'animal va choisir par instinct ce qui est bon, ce qui est nuisible, etc. Il est déterminé par cet instinct, et que c'est ce qui lui permet de choisir ce qui est utile pour lui et d'éviter ce qui pourrait lui nuire. Alors il dit, l'être humain, il fait un peu la même chose, il peut choisir ce qui est utile, bénéfique pour lui, éviter ce qui lui nuit. Mais il dit alors que l'animal le fait par instinct, l'être humain le fait par choix, c'est-à-dire qu'il est libre de choisir. L'être humain a cette liberté de choisir. Il dit, il a cette liberté de choisir à tel point que quelquefois il choisit contre son intérêt. Évidemment, il écrit ça très bien. Je vous donne cette phrase-là. Il dit, c'est ainsi que les hommes dissolus se livrent à des excès qui leur causent la fièvre et la mort, parce que l'esprit déprave les sens et que la volonté parle encore quand la nature se tait. La nature dirait, là, il y a assez, il y a assez, mais la volonté, elle dit encore. Donc, le fait même qu'il puisse y avoir des excès dans le comportement humain, c'est justement quelque chose de l'ordre de cette liberté. Il donne l'exemple d'un pigeon et d'un chien. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se sortir de la règle, dans le fond. Il dit c'est ainsi qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes et qu'un chat mourrait de faim sur une assiette de fruits et de grains. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas dire le chat, ben dans le fond, si j'essaie de manger des fruits, il n'y a pas cette liberté. Voilà, ni le pigeon de se mettre à changer de régime. Donc il montre bien qu'il y a là quelque chose, c'est pas de l'ordre du choix, mais de l'instinct, que l'être humain, lui, peut varier, peut prendre des choses, même essayer des choses même qui peuvent lui être nuisibles, parce qu'ils ont cette liberté. Donc voilà, c'est cette notion de liberté que Rousseau amène, ce qu'il apprend chez Saint-Augustin, je ne sais pas. Et il parle aussi d'une autre notion, il dit l'être humain imperfectible, dans le sens il évolue. Il dit, bien, si on regarde les habitats des animaux, les termitières, les fourmilières et autres, depuis des milliers d'années, ça n'a pas changé. Alors que si on regarde les habitats humains, en quelques, je sais pas, une centaine de milliers d'années, je ne sais pas si il y a 100 000 ans, il y avait déjà une grotte ou autre, donc ça a complètement changé. Donc cette perfectibilité, ce changement possible, qui est une des caractéristiques aussi de l'être humain, alors que l'animal semble beaucoup plus lié à un certain cycle qui est dans l'ordre de sa nature. Donc on voit là des éléments des premiers éléments qui permettent une certaine liberté, amenée donc soit par Saint-Augustin, soit formulée par Rousseau, qui montre cette possibilité, donc cette liberté, sans évidemment aborder tout le problème de la liberté dans la pensée occidentale, qui est certainement quelque chose d'immensément complexe. Et on peut se demander, dans le fond, dans la tradition bouddhique, qu'est-ce que c'est que la liberté? Alors, par rapport là, on a des grandes lignes, et on se rend compte que cette liberté, telle qu'elle était évoquée ici, c'est une liberté intérieure, une liberté de choix, même de faire des mauvais choix, dans le fond, qui reste une liberté de changer l'ordre des choses naturelles, mais ici on a encore quelque chose d'assez limité dans la notion de liberté. Et on peut se demander, donc, dans la tradition bouddhique, quelle va être la notion de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de liberté dans la tradition bouddhique? Voilà, j'aimerais bien qu'on se pose un petit peu cette question pendant quelques instants pour pas que je vienne déjà avec des réponses de la tradition avant que vous ayez eu le temps de vous poser des questions. Donc ce que je vous propose, c'est de vous mettre en petit groupe de trois, mais sans que ça soit très formel, passer peut-être une quinzaine de minutes, simplement à échanger, de dire, tiens, qu'est-ce que c'est que moi, qu'est-ce que j'imagine qu'est la liberté dans la tradition bouddhique, soit par les textes que vous avez lus, soit par l'idée, intuitivement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire dans la tradition bouddhique, cette liberté que nous évoquons tellement souvent dans les stages de méditation.